Une voix, mais quelle voix ? J'ai cherché, j'ai lu, un timbre rare, profond, voluptueux, une musicalité native, quelque chose de gargantuesque, une voix capiteuse et rayonnante, d'une grande ductilité coloriste, chaleureuse dans le médium, colorée dans le grave, tantôt railleuse, tantôt cajoleuse, tantôt gouailleuse, toujours enjôleuse, à en rester sans voix.
Pascal Paradou.
Bonjour Marie-Nicole Lemieux.
Bonjour Pascal.
Tous ces mots-là sont écrits pour décrire votre voix.
Et ce chanter.
Ne sont que chanter. Et ce ne sont que quelques-uns, car depuis 25 ans, sur toutes les scènes d'opéra du monde, il s'est écrit des centaines de critiques. Quel est l'adjectif qui vous rend la plus fière ou la plus heureuse ?
Je dirais enjôleuse.
Enjôleuse, pourquoi ?
Parce que ça veut dire que je fais mon travail. Ça veut dire que je divertis et que j'intéresse et que je raconte des histoires. Et ça, ça veut dire que, voilà, j'attire l'attention, je crée un moment et c'est à ça que les artistes servent.
Enjôleuse, il y a le mot joie dans
oui.
Enjôleuse.
Oui.
Ça vous caractérise ?
Oui, 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 oui. Et comme tout être est son contraire, la joie et la peine fait partie de moi aussi. J'adore chanter aussi les grands tourments de l'âme.
Vous avez une claire conscience de votre voix ? Ou comme beaucoup de monde, quand vous entendez, vous vous dites « mais c'est ça ma voix ?»
Ça dépend. Et quand je parle, ma voix parlée, je la trouve pas du tout en coordination avec ma voix chantée, mais ça, c'est pas grave, parce qu'elle est très aiguë.
Mais vous pourriez chanter cette interview, me faire que des réponses en chantant.
Non,
on n'est pas dans la comédie musicale.
Non, exactement. Mais non, cette voix-là, oui, non, je l'aime. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai fait de la musique populaire, de la variété. Et cette voix de variété-là, je ne l'aimais pas. Mais le jour où je suis rentrée au conservatoire et que j'ai développé, en fait, cette voix-là, c'est la voix de mon corps, de toutes mes particules, de mon être. Et celle-là, ben, je n'ai pas le choix de l'aimer parce que ça voudrait dire que je ne m'aime pas. Mais c'est ça, ça fait partie, parce qu'on utilise tout son corps pour produire un son lyrique. Donc oui, j'aime, mais j'aime surtout, c'est terrible, mais c'est la jouissance que ça m'apporte parce que c'est physique, il y a un plaisir physique à chanter.
Vous avez dit souvent que pour chanter Wagner, par exemple,
oui.
puisque vous chantez Wagner,
oui.
que vous chantez avec vos pieds.
Ah, jusqu'aux pieds. Oui, jusqu'aux pieds. Des fois, là, je sens... Oui, c'est comme si le corps est plein de musique. Alors, je ne sais pas si c'est la voix dans ce temps-là, parce que aussi, quand il y a des moments avec Mahler aussi, c'est ça, c'est des moments de plénitude. Et ça, c'est très mystique, en fait. Je trouve toujours que la carrière de chanteur est comme un esthète, comme un mystique, parce qu'il y a beaucoup de privation, beaucoup d'isolation, il y a une discipline comme un athlète. Mais quand on se laisse apporter quelquefois par la musique, c'est vraiment, pour moi, c'est des moments d'état de grâce. Et je suis chanceuse de vivre ça.
Vous êtes contralto,
oui.
Marie-Nicole Lemieux. Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut plus dire grand-chose. À mes débuts, ça caractérisait une voix plus rare, une voix qui est bien dans le grave et tout ça. Donc, c'est des couleurs. Mais voilà, je suis contralto, mais j'ai fait des rôles de soprano dramatique. J'ai fait Cassandre. J'ai fait des rôles de mezzo, Frica. Donc, voilà, c'est ça. J'ai une couleur de contralto. Ça définit plus ma couleur, qui est plus grave, mais j'ai toujours eu de la lumière dans la voix. Et ça, je n'ai jamais voulu la perdre.
Alors, vous avez un répertoire particulièrement vaste, oui. me semble-t-il, parce que
oui.
vous avez commencé avec le baroque,
mm-hmm.
vous faites de l'opéra italien, mais vous chantez aussi Wagner,
mm-hmm.
et vous avez été récemment une Carmen formidable, donc de Bizet, les mélodies françaises,
oui.
vous adorez ça.
Oui.
On dit que vous avez
Je lead aussi, je fais des récitals de Lieder, donc voilà, je fais tout.
Et on dit que vous avez une voix de grand écart. Est-ce que c'est dans la nature de votre voix ou elle s'est modifiée au fur et à mesure de la carrière ?
Je suis quelqu'un de gourmand. Et c'est moi qui ai une souplesse du corps. Et je pense que j'ai toujours travaillé ma voix pour qu'elle soit un instrument. et qu'elle soit le plus apte à faire, à exécuter mes désirs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai toujours été gourmande de tous les styles de musique. Et j'ai toujours essayé justement à ce que ma voix soit justement capable d'être souple et de pouvoir exécuter la musique dont j'ai envie.
Mais comment vient ce désir? Comment vient cette gourmandise? Parce que vous avez commencé à 5 ans, je crois, au Québec.
Oui, à faire des spectacles, mais c'était des opérettes. Mais je ne sais pas. Au départ, il y a la joie de chanter en famille. Après, je chante en chorale et c'est une joie parce que je chante et les gens me disent « Ah, c'est beau quand tu chantes ». Mais toute cette période-là, jusqu'à mes 16-17 ans, je chantais parce que les gens me seuls, quand je faisais des solos de variété, je détestais m'entendre. Mais je continuais à chanter parce que, bon, j'ai un physique hors norme, je suis quelqu'un de rond, donc très tôt, dès mes 4 ans, on m'a très vite signifié que j'étais grosse, que j'étais... Et c'est peut-être qu'on m'agaçait, on me taquinait, mais quand je chantais, tout ça s'arrêtait. Alors, je crois que j'ai vu dans le chant une voie de sortie, une voie de... Je cherche le mot, là, vous savez, de quand on dit qu'on s'élève. Quand je chantais, là, j'étais bonne. Il n'y avait pas de « oui, mais ». Alors, peut-être que ça m'a inspirée à continuer à chanter. Sauf que je faisais de la musique pop. Mais moi, dans mon cœur, à 10 ans, j'avais rencontré la musique classique. J'avais rencontré Berlioz sur un enregistrement. Et ça, c'était mon rêve intérieur.
Amoureuse de Berlioz à 10 ans.
Oui.
Oui. On peut le dire comme ça.
Oui. Et en plus, quand j'ai su plus tard que c'était un grand amoureux, je me suis dit, oh, une chance qu'on ne s'est pas rencontrés.
En tout cas, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de Falstaff,
oui.
Non pas de Berlioz, mais de Giuseppe Verdi. Vous jouez à l'Opéra Bastille à Paris. Et en fait, c'est la reprise d'une production ancienne.
Exactement.
Dans ce cas-là, est-ce que tout le travail est à refaire ou vous aviez déjà la partition et le rôle en vous?
Alors, la partition, là, ça fait 92 fois que je le fais. Donc, ça fait 92 fois que je fais des productions. Donc, je pense dans 8 productions différentes que je reprends. Mais donc, la musique, elle est là. Ça, elle est dans mon corps. C'est, d'ailleurs, ça peut devenir justement... Il faut se méfier. Quand on fait trop les choses, des fois, on peut avoir des mauvais plis. Donc, moi, j'aime bien me remettre à l'ouvrage et puis revoir pour que ça reste sain. Mais bon, la mise en scène, celle-ci, je l'avais fait en 2013. Donc, ça fait 11 ans. Et c'est très bien parce que je l'avais oublié. Donc, quand je suis revenue, c'était comme si c'était nouveau. Et je pense qu'il faut toujours avoir une partie d'amnésie quand on fait une reprise pour redécouvrir des choses.
Comme au premier jour.
Voilà.
Alors, on va parler de ce rôle, Marie-Nicole Lemieux. Après avoir écouté une autre diva, elle s'appelle Brigitte Fontaine et son nouveau titre s'appelle Cantilène.
Comme il est tard, j'ai le corps satiné qui fuse sous les bras. Comme il est tard, nous brodons des flammes sur le ciel souffrant, sur l'envers du décor. Oui, la mort travaille comme une araignée. Elle tisse sa toile dans les frigidaires et nous l'éclairons avec nos lampes de poche. Je veux vivre, vivre. J'ai 3 ans, j'ai plus de 20 000 ans. Je veux mourir comme un chien crevé dans le fleuve. Je voudrais la mer tiède, les collines couvertes d'oliviers. Les fjords, les prés pleins de chevaux fins et luisants, les ruelles tendues de tissus éclatants, avec les épices rousses, le musc et l'ombre, les bas de soie, les cigares noirs. yeux noirs.
Brigitte Fontaine sur RFI, Marie-Nicole Lemieux, sacrée voix quand même, là
j'adore.
Aussi. Vous adorez, vous connaissez bien.
Oui, je suis ce qu'elle fait. Et je suis étonnée d'ailleurs qu'elle ait encore la force d'enregistrer. Je trouve ça merveilleux. Et quand on l'écoute justement, le café noir, les yeux noirs, on entend toute la vie, le vécu dans sa voix. Je trouve ça fascinant. C'est, voilà, pour moi, chanteuse d'opéra qui passe son temps à faire attention, à avoir toujours une voix impeccable, sans alcool, sans cigarette. Sans... Et là, j'entends ça et ça... Il y a une partie de moi qui envie aussi cette espèce de liberté qu'on peut avoir dans la musique populaire. Nous, on ne peut pas se permettre ça.
Mais vous pourriez être chanteuse populaire, enfin, ou faire du rock, ou faire
je
du...
Je ne sais pas.
Être Céline Dion, vous pourriez...
Céline Dion, ça, c'est la même catégorie que moi. Céline Dion, elle a une discipline de fer, d'ailleurs, qui l'a brisée. Et quand je vois ce qui lui arrive, ça me touche, mais au plus profond de l'âme, parce que, justement, elle a une éthique de travail. Cette femme-là, c'est pas comme Brigitte Fontaine, c'est pas comme Jeanne Moreau, c'est pas du tout ça. Mais moi, je trouve ça bien qu'elle ait deux, que les deux puissent coexister.
Mais vous seriez plus Brigitte Fontaine.
Si j'avais à choisir...
Dans 20 ans, 30 ans.
Je sais pas, j'aurais été Brigitte Fontaine, je sais pas, plus Jeanne Moreau, peut-être.
En tout cas, ce que j'entends là, c'est que être cantatrice, c'est un travail de folie.
Oui.
Et c'est une vie de rigueur et de privation.
Si on veut maintenir la qualité, si on veut maintenir le rythme et si on a un respect de l'auditoire, oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des heures de répétition par jour ?
Non, justement, ça veut dire pas trop d'heures de répétition parce qu'on s'abîme. Mais on y pense toujours. On finit par apprendre à se connaître. Après, c'était beaucoup d'essais-erreurs. Donc, on sait qu'on ne doit pas dépasser ce nombre d'heures-là. Quand on chante, on sait, à un moment donné, on sait, là, je commence à trop chanter, donc là, il faut changer la façon. Donc, y aller plus doucement, ce n'est que ça.
Parler, chanter, c'est la même chose dans ces cas-là. Quand vous avez une représentation le soir, vous vous interdisez de parler ?
C'est compliqué.
Ça doit être dur. Hein.
Non. C'est aussi accepter, justement, que j'ai cette voix parlée-là très aiguë.
Ah oui, c'est une autre personne
voilà,
qui parle, en fait.
Voilà, je parle dans le masque. Je parle pas comme ça, là. Quand je suis au Québec, je parle de même, en vacances. Mais ça, c'est pas très bien pour la voix. Voilà, vous voyez. Et quand je suis en France, en fait, je me fatigue moins. Quand je suis au Québec, l'accent est plus dans le masque et plus dans la gorge. En fait, chez moi, je me fatigue plus à parler. C'est des détails, mais c'est comme ça. On vient qu'on... On connaît toutes les subtilités.
Donc, en France, c'est le repos, c'est les vacances
à
Paris.
Un peu plus facile, hein, parce que je peux faire comme ça, bonjour. Je peux parler aigu, avec une petite diphtongue à la fin.
Vous connaissez parfaitement votre instrument.
Oui et non, et oui, ben oui, avec le temps, oui.
Et vous en jouez.
Non, oui, mais c'est une arme à double tranchant. Hein, parce que justement, quand ma mère, quand elle me dit « t'en sais trop », c'est ça. Plus on en sait, plus on sait comment ça marche, plus on sait qu'on contrôle rien, puis plus on l'entend quand il y a la moindre petite chose qui arrive, on l'entend et ça devient une montagne.
Marie-Nicole Lemieux, quelques mots sur Falstaff.
Oui.
C'est le dernier opéra de Verdi. Il a été écrit à l'extrême fin du 19e siècle, je crois 1893. C'est une farce.
Une farce, oui.
C'est l'histoire d'un vieil homme buveur, fanfaron, franchement pas très sympathique, mais qui se croit irrésistible.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah
moi,
bon?
J'aime beaucoup Falstaff. Moi, si c'est un rôle qu'on me demande, je serais Falstaff.
Vous joueriez le rôle?
Ah oui.
Ah, vous le trouvez sympa?
Oui.
Enfin, il essaye de séduire deux jeunes femmes avec des arguments de bas étage, avec les mêmes arguments.
Mais
et d'ailleurs,
oui,
elles vont se venger.
Mais c'est ça qui est irrésistible. C'est ça. C'est parce qu'en même temps, parce qu'il est un aristocrate déchu et il est dans son monde. Mais c'est quelqu'un d'une érudition incroyable. Puis c'est ça, c'est un être gourmand qui a joui de la vie et qui aime et qui assume ce qu'il est complètement. Il est gros, il est aviné et il s'aime. Moi, je trouve ça génial et c'est ce qu'on lui reproche, en fait. Et dans la mise en scène de Dominique Pitoiset, c'est ce qui se passe. C'est que oui, il y a la bêtise de penser que deux amis, il envoie la même lettre d'amour à deux amis. Voyons.
Hein, là, ouais, ça être un peu bête, quand même.
Oui, je le sais. Mais en même temps, c'est ça, c'est toute la candeur de ce personnage-là. Il croit vraiment qu'il leur fait une fleur. Et du coup, le village, toute la ville de Windsor qui vit dans un carcan rigide qui ne s'autorise pas les excès que Falstaff fait. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils le prennent vraiment. Il y a une scène dans L'écume des jours où justement, il devient le bouc émissaire de tout ce que nous, on s'empêche dans la vie. Et lui, le fait. Donc, toute la ville se venge sur lui. Et c'est triste en même temps.
C'est vrai, mais vous participez à cette tristesse parce que vous êtes l'instrument de la vengeance de ces jeunes femmes. Vous allez jouer les messagères en proposant un guet-apens à Falstaff. Ça vous fait rire de vous réentendre?
Oui, c'est 2013.
Ça, c'est l'enregistrement 2013.
Oui, il y a 11 ans, et c'est avec le même Ambrogio Maestri que je retrouve 11 ans plus tard à Bastille. C'est drôle parce que même je l'entends aussi, nos voix ont mûri, ont changé.
Il joue Falstaff et vous jouez Mrs. Quickly, qui est donc cette messagère avec votre chapeau à plumes et votre boa grenat. Et vous jouez vraiment. Hein. Vous êtes une actrice aussi, vous n'êtes pas qu'une cantatrice.
Non.
D'où vient cette attention au jeu et au texte? Parce que vous avez aussi la réputation de donner une grande intelligibilité des mots. Le sens compte, pas seulement la musique.
Oui, je ne sais pas, je suis née comme ça. En faisant de la scène très tôt avec Sœur Clairette Lambert, c'était la directrice de chorale, voilà, pour moi, c'était important. On faisait des rôles et j'ai toujours aimé jouer. J'ai toujours aussi une rigueur. Je ne sais pas, il y a un côté très bon élève chez moi. Et donc, je suis vraiment une interprète. Et quand on me dit une partition, pour moi, c'est très important de la respecter. Et ma mère, ça, je me rappelle, ma mère et mon père, ils me disaient toujours, il faut que tu prononces. C'est bien parce que toi, on comprend les mots. Et pour eux, dans notre famille, je ne sais pas. Donc, ça vient vraiment de l'enfance. Et oui, je me fais un point d'honneur à articuler, à bien dire les mots. Et mon amour du sens vient de mon adolescence quand je suis tombée en amour avec la poésie. Et voilà, tout ça est lié. Et voilà, je vois votre main qui veut me poser une question.
Non, j'ai envie de vous demander, quelle que soit la langue, soit en français ou en italien, par exemple.
C'est tout le travail. Ça, c'est la beauté de la chose. On chante en allemand, il faut apprendre le rythme de l'allemand. C'est super important. Dans quelques langues que je chante, il faut que je sache ce que je dis. C'est le rôle du chanteur. C'est pour ça que
quel rapport vous avez avec les langues, Marie-Nicole Lemieux?
Ben, c'est un rapport de communication, c'est un rapport de culture. Et puis, étant québécoise, bon, vous l'entendez, là, je suis québécoise. Étant québécoise, la langue, pour moi, dès le départ, et c'est une identité, c'est une chose très forte. On est encore à se battre encore pour garder le français chez nous. Donc, pour moi, le respect des langues de chacun, c'est une marque de respect. Et c'est, je pense aussi, c'est peut-être intellectuellement aussi, ça vient chercher l'espèce de l'intellectuel chez moi qui a envie de connaître, de savoir, de s'imprégner d'autres cultures. Et c'est une forme de, on est meilleur quand on en sait plus et quand on respecte aussi, on comprend mieux les interactions et même la musique de la langue. Quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'ai compris un peu plus la façon d'être des gens. Parce que, voilà, en allemand, par exemple, on a toute une phrase et en fait, à la fin vient le verbe. Donc, il faut attendre la fin de la phrase pour savoir ce que la personne veut dire. Donc, quand on dit que les Allemands sont disciplinés, ils n'ont pas le choix. Parce que si tu n'attends pas la fin de la phrase, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Donc, ça, j'y vais. Hop! Ah ben oui.
Et chanter Verdi, chanter Verdi, est-ce que ça veut dire parler italien?
Ah oui, oui, oui. Ah oui, ben, ça, mais ça, oui. Mais ça, l'italien, c'est terrible. C'est comme une musique de l'âme parlée. Mais chanter, ça m'a pris beaucoup de temps et je trouve encore que je ne chante pas aussi bien que je chante le français ou que je chante l'allemand. C'est deux langues chez moi qui sont plus faciles vocalement. Mais parler italien, je ne sais pas pourquoi, c'est comme une espèce... J'entends des gens parler italien à côté de moi et je me mets à leur parler en italien. C'est comme une maison de l'âme. J'ai une chaleur au cœur. C'est beau.
Falstaff, cette fois c'est la version 2024, l'actuelle, celle de l'opéra. Marie-Nicole Lemieux, est-ce qu'il faut une qualité vocale particulière pour chanter Verdi? Est-ce qu'il y a une prise de risque pour la voix?
Oui, c'est toujours chanter Verdi, c'est toujours un grand défi parce qu'il y a toujours le poids de la tradition, l'énorme poids de la tradition. Tout le monde a son opinion sur Verdi, c'est comme quand on chante Carmen, tout le monde a son opinion sur ce que devrait être le chant dans Carmen et surtout dans Verdi. Et la partition verdienne est toujours très, très intéressante parce qu'elle est... Il savait de quoi il parlait, le bonhomme, on va se le dire, là. Giuseppe Verdi, là, c'est un grand. Vraiment, là. Quand on voit sa partition, toutes ses annotations, c'est d'une précision, d'une vérité, d'une rigueur. Alors moi, c'est ça. Donc, quand je fais le défi dans Falstaff, dans Quickly, c'est vraiment, il faut être comédienne. Si on n'a pas le théâtre, ça, je sais que Verdi, il a mis à la porte la première mezzo, qui est la première contralto qui faisait Quickly, parce qu'elle ne jouait pas. Il veut du théâtre. Donc ça, premièrement.
Deuxièmement, ça, c'est pour vous.
Et deuxièmement, il faut respecter la partition. Ce qui demande une rigueur rythmique. Falstaff est l'opéra le plus complexe à interpréter pour tous les protagonistes. Ça demande une rigueur rythmique. Ça demande la pulsation, là, je fais le geste, dans les tripes. Et ça ne pardonne pas. Il faut jamais perdre le rythme, le tempo. Il faut toujours l'avoir dans son corps. Sinon, on décale. Et c'est vraiment, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Ce n'est pas le chant, par exemple, si on parle outre-ouvert avec Azucena, où là, on peut s'emporter, crier, et puis là, chanter, prendre un grand rallentando et revenir. Ça, on ne peut pas. Il faut, et dans Falstaff, il faut s'oublier, il faut être de l'équipe. Et voilà, c'est très exigeant. Mais quand ça fonctionne, c'est magique.
Marie-Nicole Lemieux, avant vous, j'ai eu quelques émotions à l'opéra.
Oui.
D'abord avec la Castafiore en lisant Tintin.
Oui.
Et puis en écoutant Callas, j'avais une douzaine d'années.
Oui.
Hein. C'était Tosca. Mm. Écoutez ce qu'elle disait sur sa voix.
J'ai eu de la chance, ça, sûrement c'était le destin, que j'ai eu comme professeur Madame de Hidalgo, Elvira de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Elle était espagnole. Et alors j'ai eu la base très bonne. La base surtout des petits trucs, disons, de l'art et de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez de leçons de ce genre-là. Tandis qu'aujourd'hui, les petites filles, disons, elles ont des très jolies voix, elles ont une méthode assez bonne, mais de là, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas la base, ils n'ont pas les petits trucs de sauter en dessus du chant, c'est-à-dire d'interpréter. Aujourd'hui, on ne fait que des notes et on détache. Il n'y a pas le legato, il n'y a pas la fioritura, il n'y a pas l'expression. Il y a le verisme et alors on commence tout de suite la carrière avec une petite voix ou jolie voix. Et on n'y pense pas à tout ce que comportait le commencement de l'opéra, disons.
Quoi? Est-ce que sauter au-dessus du champ, Marie-Nicole Lemieux, ça vous dit quelque chose, ça?
Oui, ouais. En fait, ce qu'elle parle, elle parle de l'importance du legato. Et ça, elle a raison. Moi, ma voix s'est ouverte quand j'ai appris à faire un legato. Et elle a raison là-dessus. C'est un acte de chant très important.
Et c'est quoi le legato?
C'est lié en français. C'est-à-dire de chanter, voilà, avec une ligne qui ne... C'est comme si, en fait... Pour faire une image, j'ai un caramel et j'étire le caramel, voilà. Et le legato, c'est d'avoir le caramel qui se range jusqu'à la fin de la phrase et qui ne casse jamais. Donc, c'est pour avoir la voix qui chante tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important. Mais évidemment, c'est drôle parce qu'elle dit ça et puis aujourd'hui, je pourrais répéter la même chose. C'est drôle parce que quand on vieillit, on fait toujours « Ah, les chanteurs, ils savent plus chanter. » »«
Ah, les petites filles !»
Oui, exactement. Mais en même temps, elle a été transcendante dans son jeu, mais elle a chanté 10 ans.
C'est peu.
Voilà. Donc, mais c'est vrai que pour moi, pour Callas, ce que j'admire chez elle, c'est la modernité de sa musicalité et effectivement son legato qui est incroyable. Je l'admire là-dessus, c'est incroyable.
Marie-Nicole Lemieux, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a une transmission du chant, justement, de génération en génération? Est-ce que vous enseignez, ou si vous n'enseignez pas, est-ce que vous avez envie d'avoir des élèves?
Je suis terrorisée à l'idée d'avoir des élèves parce que je suis trop encore dans le métier. Et je suis quelqu'un d'entier. Quand je fais quelque chose, je le fais entièrement. Et je voudrais pas... Moi, j'ai bénéficié d'un professeur qui était mon professeur à temps plein. Et j'aurais trouvé ça très difficile d'avoir quelqu'un qui me prend seulement quand il y a du temps. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à chanter, j'ai gavé. Quand je chante avec des grands chanteurs, on l'entend, on nous aurait l'entendre. Donc, on se nourrit du geste vocal qu'ils ont. Et voilà, donc je ne sais pas si j'aurai l'intelligence d'enseigner. Parce que ça prend une grande intelligence. Il faut respecter la personne qu'on a devant soi. Il faut respecter sa nature. Et elle n'est pas nous. C'est-à-dire que quand on a un élève qui est devant nous, c'est illusoire de la faire sonner comme on veut, comme nous. C'est de trouver la musique de cette personne. Et ça, c'est un art. Et ça, par contre, ça se perd. Moi, je trouve que les vrais professeurs de chant, c'est un métier.
Merci beaucoup. Marie-Nicole Lemieux.
Merci à vous.
Immense discographie dont le dernier enregistrement en date est consacré à Saint-Saëns, Berlioz et Scheherazade, intitulé, nommé...
Scheherazade de Ravel.
Scheherazade de Ravel, mais l'album s'appelle Marie-Nicole Lemieux en toute modestie, point.
Bon, ça va, après 24 ans de carrière, je peux bien me permettre d'avoir ça, hein. Comme, mais en fait, non, c'est Lemieux, Saint-Saëns, Berlioz, Saint-Saëns, Ravel, ça va. Oh. Bon.
Merci beaucoup, et vous êtes à l'affiche de Falstaff de Verdi, oui, à l'Opéra de Paris jusqu'au 30 septembre. Merci infiniment, de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, on est en retard, à demain.
Ha ha ha!